qui signifie que c'est à ce moment-là que vont se produire, comme toujours au moment du reset, les défaillances massives des ménages qui, au début, payaient parce que c'était tout léger et tout agréable et qui ne pourront plus faire face à des mensualités qui vont doubler de volume d'un coup d'un seul. Bon, ça, c'est le premier qu'on voit. Il y en a pour 1000 milliards de dollars, hein, gentiment, de Halt et Mortgage. Alors, ça ne veut pas dire que les 1000 milliards de dollars vont se fracasser, mais ça veut dire qu'il faut s'attendre à enregistrer un taux de défaut assez rondelet et qui vont occasionner des pertes supplémentaires assez rondelettes également dans les bilans bancaires. Première chose. Deuxième chose, on reste dans l'immobilier, mais cette fois-ci, on change un peu de crèmerie. Non plus l'immobilier des ménages, mais l'immobilier commercial. Alors là aussi, il y a un séisme qui s'annonce et qui va être absolument gratiné. Donc il y a des dettes d'ordre de grandeur équivalent qui ont été contractées sur l'immobilier commercial et que les entreprises ne vont pas pouvoir rembourser. Et alors là, pour le coup, la récession ne les y aide pas. Et d'une manière générale, c'est ça le vrai problème. C'est que la récession fonctionne comme une espèce d'énorme machine à produire endogènement de la mauvaise dette. C'est-à-dire, vous aviez des ménages qui étaient à peu près solvables, les narines au ras de l'eau, mais encore un petit peu au-dessus, et qui arrivaient à payer. Mais voilà, il y en a un des deux qui perd son emploi et c'est fini. Le ménage plonge. Et d'emprunteur à peu près solvable qu'il était, il tombe dans la catégorie des emprunteurs qui font défaut. Mauvaise dette en plus. Et puis, il n'y a pas que les mauvaises dettes des ménages, il y a les mauvaises dettes des entreprises. Alors, pas seulement celles qui sont concernées par l'immobilier commercial, mais toutes les autres. Je veux dire, il y a plein de business qui étaient des affaires honnêtes, hein, convenablement solvables, qui payaient leurs dettes à peu près correctement, et qui se prennent dans les dents moins 20, moins 30, moins 40% de chiffre d'affaires. Ah bah oui, évidemment, hein, ça change les données du problème. Alors, toutes ces entreprises, elles aussi, d'à peu près solvables qu'elles étaient, risquent de devenir insolvables ou illiquides. Et encore un paquet de mauvaises dettes supplémentaires à encaisser pour les banques. Donc moi, je ne sors pas de cette idée simple et assez rudimentaire que le système bancaire n'en a pas fini avec les dettes pourries et que comme c'est ça la raison première de la crise, aussi bien de la crise financière que de la crise économique, on n'en est pas débarrassé. Et donc moi, mon anticipation, ça serait que, au lieu d'une reprise triomphale comme on nous l'annonce, certes, nous allons sortir de la récession, c'est-à-dire des taux de croissance négatifs, mais pour nous traîner très durablement dans un régime de croissance tout à fait mollassonne et avec par conséquent un chômage haut et voué à rester à des niveaux élevés pour très longtemps. Je veux dire, c'est-à-dire une phase de croissance cacateuse et d'emploi très dégradé pour vraiment plusieurs années.
On annonce 25 millions de chômeurs dans les pays de l'OCDE. C'est l'OCDE même qui fait cette prévision pour 2010.
Eh ben, 25 millions. C'est pas moi qui le dis, c'est des prévisionnistes assermentés. Donc voilà, ça vaut peut-être le coup de les écouter. La dernière chose, c'est qu'il faut bien voir l'alternative toute pourrie à laquelle on est confronté tout de même. Hein. Parce que dans cette affaire, quand je disais que derrière la crise financière, il y a une grosse crise économique, mais je veux dire une crise structurelle, une crise de la configuration du capitalisme, c'est une crise de sous-consommation chronique. Je veux dire, la stagnation salariale est l'effet permanent de cette configuration du capitalisme. Alors évidemment, la sous-consommation, c'est un peu embêtant. Alors au début, le capital pousse des cris de joie. Hein, ça, c'est facile à comprendre. Parce que des coûts salariaux qui baissent, ça veut dire des profits en hausse. Mais au bout d'un moment, même le capital s'aperçoit qu'il lui faut écouler sa marchandise.
C'est ça.
Et que pour l'écouler, il faut bien qu'en face, il y ait une demande solvable.
Ford avait compris ça.
Même lui, il avait compris ça. Eh bien, ses successeurs, 70 ans après, l'ont oublié. Et alors, évidemment, le problème, c'est que quand on verse des salaires au lance-pierre, la consommation s'en trouve légèrement déprimée par derrière. Et la consommation risque de rester durablement déprimée, sauf à reprendre les manœuvres acrobatiques de la finance qui avait réussi à instituer le crédit à la consommation comme espèce de béquille permanente de la demande finale adressée aux entreprises, mais moyennant des contorsions alors absolument invraisemblables qui passaient par toutes ces innovations qu'on appelait l'attitrisation, la finance structurée, c'est-à-dire cela même qui s'est fracassé à partir du printemps 2007. L'alternative est donc soit same player shoot again, hein, allez, on remet 50 centimes dans le flipper et c'est reparti, l'attitrisation, le soutien artificiel de la consommation droguée au crédit avec la prochaine crise de surendettement généralisé pour dans 5-10 ans, ou bien les folies du crédit se calment, mais alors la consommation reste durablement déprimée et la croissance avec.
Frédéric Lordon, c'était vu il y a à peu près un an, au moment où ce crack se produisait, Et là, on se disait, là, vraiment, alors là, tout le monde va comprendre. Oui. C'est tellement gros, c'est tellement énorme. La chute est... Alors, nous qui essayons toujours modestement, avec du génie aussi, mais